Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité.
L'Iran a répliqué comme promis à Israël en envoyant des centaines de drones et de missiles directement de son territoire. Ça a poussé une escalade. Il y a une tension actuellement au Moyen-Orient encore plus grande qu'il y avait il y a encore quelques semaines. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour la suite? Parce qu'on a tous un peu le souffle coupé, on attend la suite des choses. On en parle avec Rachad Antonius, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie de l'UQAM. Bonjour, Monsieur Antonius.
Bonjour, Yasmine.
On a vu Benjamin Netanyahou ne pas trop s'avancer sur comment Israël compte répondre à cette réponse de l'Iran suite à l'attaque israélienne envers le consulat et l'ambassade iranienne à Damas, en Syrie. Est-ce que vous pensez que les Américains et leur déclaration disant qu'ils n'embarqueraient pas dans une offensive menée par Israël risquent de calmer les ardeurs de Benjamin Netanyahou?
C'est sans doute un facteur important. Heureusement que Israël ne s'est pas trop avancé, parce que si c'était trop avancé, il perdrait la face s'il n'allait pas plus loin. Donc là, ça permet un peu de calmer le jeu. Et heureusement que les Américains ont bien décodé ce que l'Iran disait. Parce que pour l'Iran, c'était clair. Vous savez, l'attaque contre l'ambassade iranienne à Damas, c'était gros. C'était pas juste comme dans les fois précédentes où on assassinait un général. Là, c'était dans l'ambassade, donc ça avait une valeur symbolique beaucoup plus grande. C'était un niveau d'agression beaucoup plus élevé, et c'est pas une personne qui est morte, mais une quinzaine de personnes qui ont été tuées dans cette attaque israélienne. Alors, l'Iran a répliqué en envoyant quelques missiles sur la base d'où les avions israéliens étaient partis pour aller attaquer l'ambassade israélienne. Donc, c'était vraiment très symbolique. Maintenant, Israël dit que moins de 1% des missiles ont... des missiles ou des projectiles, parce qu'il y a eu des missiles, des drones, ont atteint leur cible. L'Iran prétend que ça n'est plus et que la destruction est plus grande. Moi, je doute un peu parce que il y a une tradition dans ces pays de vouloir toujours. Je parle de par exemple l'Égypte, d'où je viens, où quand on attaquait l'ennemi, on avait toujours les nouvelles disaient toujours qu'on en a détruit bien beaucoup sûr. Plus que ce qui se passait en réalité. Donc il y a cet élément-là. Donc on ne sait pas exactement, mais pour l'Iran, ça a été clair. Ils l'ont dit clairement. Ils ont dit: nous avons marqué un point, nous avons envoyé le signal que, au besoin, nous sommes capables de riposter, et en ce qui nous concerne, ça s'arrête là. C'est ce que l'Iran a dit. Donc, il faut espérer que ça n'aille pas plus loin.
Monsieur Antonius, la question que je vais vous poser, vraiment, vous allez voir, elle est un peu particulière, et je vais expliquer pourquoi je la pose. C'est: est-ce que l'affection des Iraniens pour les Palestiniens, par exemple, ou la bande de Gaza, est moins importante à leurs yeux que leur haine envers les sunnis? Parce qu'ils savaient très bien qu'en attaquant Israël de la sorte, il y a un réalignement non naturel avec ce qui se passe à la bande de Gaza. On a vu les Émirats, l'Arabie Saoudite, la Jordanie contribuer à la défense, entre guillemets, israélienne. Mais ce ne sont pas des pays qui soutiennent Israël naturellement dans le conflit à Gaza.
Oui, ben écoutez, il y a un double réalignement qui s'est fait. D'une part, depuis quelques années, les États-Unis essayent de courtiser ces pays-là pour qu'ils collaborent avec Israël, en leur faisant valoir que l'Iran est un danger plus grand pour eux qu'Israël.
Et ce qui n'est pas faux.
Pardon?
Ce qui n'est pas faux. Parce que l'Iran est plus instable.
Oui, mais c'est pas nécessairement un danger. C'est-à-dire, oui, l'Iran est plus fort, mais l'Iran n'a pas intérêt à attaquer ces pays-là du Golfe. L'Iran a intérêt à fédérer un peu les forces politiques qui sont marginales pour le moment, qui sont opposés à l'hégémonie américaine. Donc, l'Iran essaye de fédérer, d'une part la Syrie, mais aussi le Hezbollah, les Houthis, les le Hamas est pour eux effectivement la stratégie et la vision politique est plus importante, semble-t-il, en ce moment, que la dimension est confessionnelle.
Ouais.
Donc, ils collaborent avec le Hamas, qui sont des sunnites. L'Iran est prêt à aller au-delà de ces divisions-là. Ce sont plutôt les gouvernements des monarchies pétrolières et certains gouvernements arabes qui ne sont pas tout à fait légitimes, qui essayent de gagner en légitimité auprès de leur population en jouant sur cette opposition supposée avec les chiites, en allant puiser dans le registre religieux pour dire les chiites sont nos ennemis. Alors l'Iran pense en termes plus stratégiques et plus, je pense, au-delà de ces divisions. Alors, bien sûr, c'est un mouvement islamiste, c'est un gouvernement islamiste qui a ses références religieuses, qui est fondamentaliste à bien des égards, mais je crois que la dimension stratégique me semble être plus importante pour eux en ce moment.
Encore une fois, l'Iran, si elle voulait faire de réels dommages à Israël, n'aurait pas prévenu finalement tout le monde qu'elle s'apprêtait à attaquer, n'aurait pas envoyé nécessairement des missiles qui prennent 6 à 8 heures avant d'arriver. On avait l'impression que c'est plus un message que l'Iran cherchait à envoyer plutôt qu'un réel, une réelle vengeance envers Israël et de l'attaque qu'ils ont connue en Syrie.
Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire ça. Il y a eu plusieurs signes qui disaient que finalement, ils voulaient quelque chose de limité et de symbolique. Pourquoi? Parce que il n'est pas de leur intérêt en ce moment de provoquer un conflit plus large. L'Iran, comme je l'ai dit tantôt, ils ont une pensée stratégique assez sophistiquée, ils savent évaluer le rapport de force, ils considèrent qu'en ce moment, le moment n'est pas venu de faire une confrontation à large échelle et probablement qu'ils vont pas la faire. Ils vont attendre que ce soit les États-Unis ou Israël qui provoquent cette confrontation-là. Je pense qu'ils sont dans un autre état d'esprit que celui de la confrontation idéale, totale maintenant. Alors, bien sûr, ils vont appuyer le Hamas, ils vont appuyer le Hezbollah, ils ont une stratégie à long terme d'opposition locale, c'est-à-dire locale, je veux dire, Gaza, Liban, Yémen, à l'hégémonie occidentale, mais ils sont pas prêts à faire une guerre régionale pour un petit bout de temps, je crois.
En même temps, l'action de cette fin de semaine a apporté ombrage à la situation absolument déshumanisante qui sévit actuellement à Gaza pour deux raisons principales. C'est qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'Iran, on ne parle pas de ce qui se passe à Gaza depuis quelques jours, la première des choses. La deuxième des choses, c'est que on a vu beaucoup d'alliés d'Israël commencer à monter le temps, à changer d'approche. On a vu même les États-Unis réclamer un cessez-le-feu, ne pas poser leur veto dans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Canada même a voté une motion pour qu'on arrête d'exporter des armes en Israël tant et aussi longtemps que cette guerre à Gaza ait lieu. Mais là, avec cette attaque iranienne, Israël va se retourner envers ses alliés naturels pour dire « j'ai besoin de financement, j'ai besoin d'armement, je suis sous attaque ».
Tout à fait, mais c'est pour ça qu'Israël avait attaqué l'ambassade aussi. Je veux dire, il ne faut pas oublier que l'initiative dans cette montée de tension des deux dernières semaines, cette initiative n'est pas venue de l'Iran, elle est venue d'Israël. Donc c'est Israël qui a accentué la tension il y a deux semaines, dans le but exact que vous avez mentionné, pour détourner l'attention du massacre
à Gaza,
à connotation génocidaire qui est en train d'avoir lieu, rallier un appui. Cependant, les faits sont têtus et les gouvernements occidentaux ne se rendent pas compte de l'énorme gouffre qu'il y a entre les quelques pays qui sont le noyau de l'OTAN et l'immense majorité de ce qu'on appelle les pays du Sud. Même les Émirats et les monarchies pétrolières qui commencent à être contre l'Iran, elles-mêmes sont en rupture avec leur propre population. parce que il y a un différentiel de sentiments entre les populations de la région arabe et leur gouvernement qui sont prêts à faire des compromis parce que leurs élites ne veulent pas trop perdre leur bille avec les Américains. Alors il y a tout ça qui rentre en jeu.
Une situation d'une complexité inouïe à laquelle on vient de rajouter 2-3 couches de complexité cette fin de semaine. Rachad D'Antonius, spécialiste du Moyen-Orient et professeur de sociologie à l'UQAM, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir.